Bonjour à toutes et à tous, il est tout juste 11h à Paris, bienvenue sur RFI.
Olivier Sherman.
La ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, frappée par un missile russe, le bilan est lourd. Au moins 18 morts, dont 9 enfants. Ce bombardement, l'un des plus meurtriers de ces dernières semaines en Ukraine, a touché un quartier d'habitation dans le centre du pays. Nous retrouverons notre correspondante à Kiev, Emmanuel Chaz. Entrée en vigueur ce samedi, des nouveaux droits de douane à hauteur de 10% supplémentaires sur toutes les importations aux États-Unis, imposés par Donald Trump. Une déflagration pour le commerce mondial. Gros plan dans ce journal sur les conséquences dans une distillerie britannique où s'est rendu Emeline Vin. Un effet de la politique de Donald Trump, les États-Unis n'attirent plus les touristes étrangers depuis le mois de mars. Une baisse de près de 20% des réservations de voyages pour les États-Unis est enregistrée dans certaines agences de voyages en France. Enfin, le Rassemblement national au bord du gouffre financier, après sa lourde condamnation de cette semaine, 1 million d'euros de dommages et intérêts à régler immédiatement, en attendant peut-être les 2 millions à payer plus tard si la condamnation est définitive. Explication à suivre de Victorien Vuillaume. 92 drones kamikazes lancés la nuit dernière contre l'Est, le Sud et le centre de l'Ukraine. Selon Kiev, 82 ont été interceptés ou détournés. Alors que les délégations françaises et britanniques étaient dans la capitale ukrainienne hier pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky et parler d'une éventuelle présence de troupes étrangères de maintien de la paix sur le sol ukrainien, la Russie continue donc de frapper l'Ukraine quotidiennement. Hier, c'est Kryvyi Rih, ville natale du président Zelensky, qui avait été durement frappé dans l'après-midi. Le récit de notre correspondante à Kiev, Emmanuel Chaz.
Kryvyi Rih, la ville natale de Volodymyr Zelensky, a une nouvelle fois été lourdement touchée par une frappe russe. On compte 18 morts, dont 9 enfants, une soixantaine de blessés lorsqu'un missile balistique russe de type Iskander, selon Kiev, s'est abattu sur une zone résidentielle. La Russie rétorque qu'il s'agissait d'une frappe de précision visant un rassemblement de hauts gradés ukrainiens et étrangers, mais les images montrent une frappe sur une zone résidentielle près d'une aire de jeu pour enfants. Volodymyr Zelensky a vivement réagi. Pour lui, les Russes frappent tous les jours, des gens meurent chaque jour. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle cela continue. La Russie ne veut pas de cessez-le-feu et l'Ukraine et le monde entier le voient, dit-il. Ces frappes sont intervenues alors que des délégations menées par les chefs d'état-major français et britanniques étaient à Kiev pour discuter de possibles contingents étrangers de maintien de la paix sur le sol ukrainien. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Justement, sans s'avancer sur le nombre de ces soldats ou les lieux où ils pourraient être envoyés, Volodymyr Zelensky a précisé que la coalition des volontaires, ce groupe d'une dizaine de pays prêts à envoyer des troupes de maintien de la paix en Ukraine, était désormais bien lancée. Les discussions concernent à la fois les forces terrestres, la défense aérienne et l'armée de l'air ainsi que la marine. Volodymyr Zelensky a répondu lors de la conférence de presse à notre correspondante Emmanuel Chaz sur l'envoi possible de troupes françaises sur le sol ukrainien. Volodymyr Zelensky.
Les troupes françaises seront parmi, j'en suis absolument sûr, seront parmi les premières en Ukraine. Parce que les Français, le contingent français, britannique, avance aujourd'hui cette idée en tant que principaux représentants du contingent européen. Quand ils seront là, en quelle quantité, ça je ne peux tout simplement pas le dire. Ce sont les accords que nous avons avec nos partenaires pour l'instant.
Les droits de douane décidés par Donald Trump mercredi entrent en vigueur pour partie ce samedi matin. Ce n'est qu'à la première étape avant d'autres augmentations dans les prochains jours. Aujourd'hui, prenons l'exemple des 10% imposés aux exportations britanniques. Le Royaume-Uni est l'un des pays qui s'en sort le mieux, taxe moitié moins que ses voisins européens. Un bénéfice du Brexit pour certains, un moindre mal pour d'autres. Emeline Vin s'est rendue dans une distillerie londonienne.
La distillerie Dogghouse exporte une petite partie de ses whiskies, ses gins et ses vodkas vers les États-Unis. Depuis le retour de Donald Trump, le fondateur Braden Saunders craignait de lourds droits de douane. Alors 10%.
Massive relief. Obviously, on est soulagé quand on voit les 20% imposés à l'Europe. Mais 10%, ça a beau sembler peu, c'est beaucoup pour les petits producteurs. Ça aura un impact sérieux sur nos opérations là-bas.
Assis sur un tonneau de whisky, le chef d'entreprise se rassure. Londres a une relation particulière avec Washington, en partie grâce au Brexit.
Je suis persuadé qu'on va réussir réussir à négocier pour diminuer ces 10%. Trump veut rester ami avec le Royaume-Uni. Entre le Brexit, la relation historique entre les deux pays, s'il doit conclure un accord avec quelqu'un, le Royaume-Uni paraît évident.
Pour l'instant, Donald Trump n'a pas vraiment donné de signaux d'intérêt envers cette relation spéciale, mais le gouvernement promet continuer de travailler à un accord commercial. En cas d'échec, les entreprises britanniques comme Dughouse Distillery devront s'adapter.
On concentrera probablement nos efforts sur d'autres marchés. On a l'Europe juste à côté et il y a plein d'autres marchés intéressants pour nous.
Le secteur pharmaceutique devrait aussi être affecté par les nouveaux droits de douane, ainsi que les voitures britanniques soumises, elles, à un tarif de 25%. Emeline Van Londres, RFI.
L'effet Donald Trump, l'effet de la politique du nouveau président américain se fait déjà ressentir sur l'aspect touristique pour les États-Unis. En France, le nombre de voyages réservés dans ce pays est en nette baisse. Sur le mois de mars, les professionnels du secteur parlent d'une chute de 15 à 25% par rapport à l'année dernière. Léonard Jochem s'est rendu dans une agence de voyage à Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne, et Trump et sa politique n'attirent pas les foules.
Devant la vitrine, Françoise considère les options, sauf une, les États-Unis.
Bah enfin, avec ce qui se passe, le petit président, là, le copain de Poutine et tout, avec tout ce qu'ils sont en train de faire et tout, non.
Ce ne sera donc ni New York ni Californie pour elle cet été. Inès non plus n'ira pas. Le climat politique la gêne, mais...
Si on propose avec un bon prix, etc., pourquoi pas ? C'est peut-être pas ce qui va m'arrêter complètement de dire que ce soit Trump à la tête.
À l'intérieur de l'agence, Lucie est responsable. Dans ce secteur depuis 30 ans, le malaise autour de Trump, c'est du jamais vu.
Je crois que ça fait peur à pas mal de gens. D'emblée, les gens parlent des États-Unis en disant « je n'irai pas ».
Ici, le nombre de voyages chez l'oncle Sam a été divisé par deux en un an.
Là, les gens, ils me disent « ce type est fou, on veut pas aller là-bas ». Presque tous les jours, on reçoit des messages des États américains, de la Californie, de la Floride, enfin de tous les États, qui nous disent « attention, il y a une baisse de demande sur les États-Unis, il faut continuer de dire à vos clients de venir aux États-Unis. »
Lucie l'assure, c'est le Canada qui rafle la mise. Les réservations ont presque triplé. Le malheur des uns fait le bonheur des autres.
Le puissant séisme qui a frappé la Birmanie a fait plus de 3300 morts, selon un nouveau bilan rendu public aujourd'hui par les médias d'État. Le tremblement de terre qui a pulvérisé des immeubles et détruit des infrastructures à travers tout le pays a également fait plus de 4500 blessés et 220 personnes restent toujours portées disparues. Selon une estimation des Nations Unies, plus de 3 millions de personnes ont été affectées d'une façon ou d'une autre par la catastrophe qui est venue s'ajouter aux ravages de 4 ans de guerre civile. En France, on s'intéresse à présent aux finances du Rassemblement National avec cette question. La somme d'argent que doit régler le parti d'extrême droite dans le cadre de la condamnation prononcée en début de semaine met-elle en danger son avenir ? Victorien Villaume, c'est ce que laisse entendre depuis lundi plusieurs cadres du RN.
En plus des 2 millions d'euros à payer plus tard si la condamnation devient définitive, 1 million d'euros de dommages et intérêts sont à régler immédiatement. Sur les réseaux sociaux, les élus RN multiplient les appels aux dons. Notre existence est menacée, dramatise Marine Le Pen.
Notre mouvement a été victime d'une condamnation, d'une lourdeur financière qui engage son avenir.
Le président de l'Observatoire de l'éthique publique, René Dosière, reconnaît que le parti d'extrême droite a des dettes.
C'est un parti qui se finance principalement avec les prêts qui lui sont accordés par des particuliers. Comme il y en a eu beaucoup, plusieurs centaines, ça s'est accumulé et donc ils ont une dette à rembourser.
Mais le RN a les reins plus solides qu'il ne le prétend, dit l'ancien député socialiste. Il reçoit une aide publique élevée grâce aux 11 millions de voix recueillies aux dernières législatives.
1 euro, peut-être 1,20 € par voix recueillie. Le Front National a une dotation publique annuelle de l'ordre de 15 millions d'euros. Ça lui permet quand même de redresser ses finances et de faire face.
Et de rappeler que le parti à la flamme a assaini ses finances ces dernières années, notamment en remboursant son prêt contracté auprès d'une banque russe en 2014 pour financer la campagne électorale des européennes.
Le monde de la musique en deuil. Amadou Bagayoko, qui formait avec sa femme le légendaire duo de musiciens aveugles Amadou et Mariam, est décédé à Bamako à l'âge de 70 ans des suites d'une maladie. Le duo a connu un succès planétaire en 2004 avec Un dimanche à Bamako, chanson-titre d'un disque produit par Manu Chao, alors qu'ils tournaient ensemble depuis les années 1980. Passez une excellente journée sur RFI. Tout de suite, ces grands reportages.